est au centre de la photo et fait mine de ne pas voir l'objectif. Fier avec son uniforme et son arme, il fronce les sourcils et regarde ailleurs. Le photographe indien Atul Loke, ici au Cachemire, lui aussi regarde ailleurs. Le soldat est flou, la mise au point se concentre sur une autre présence, un regard craintif à moitié caché par les volets d'une maison. Comme si, dans la présence à tout prix et le regard soutenu, se jouait ici une forme de résistance. Bienvenue à tous sur France Culture, on est ensemble jusqu'à 13h50. On pourrait commencer ce premier plateau en citant ces quelques mots de Claude Angéli, paru hier dans le journal Libération. « Il n'y a pas de pouvoir innocent ». Le journaliste au canard enchaîné depuis 50 ans revient dans un entretien sur la question du secret des sources. « Aucun pouvoir, dit-il, ne résiste à la tentation d'aller chercher les sources des journalistes. Surveillance de la vie privée, photos, lettres anonymes, intrusion dans les locaux par des agents de la DST déguisés en plombier, Claude Angéli raconte ces anecdotes pour dire qu'au fond, rien n'a vraiment changé, si ce n'est pourrait-on rajouter que nous vivons une séquence particulière marquée dernièrement par la convocation de journalistes à la DGSI, organe du ministère de l'Intérieur, des tentatives de perquisition dans la rédaction d'un journal et une parole gouvernementale qui n'hésite pas à jeter le discrédit sur des journalistes qui, je cite, ne sont plus à la recherche de la vérité ou seraient, je cite encore, des justiciables comme les autres. Si bien que l'association du prix Albert Londres et une quarantaine de rédactions se sont inquiétées publiquement de la fragilisation d'un secret des sources pourtant essentiel à la production de l'information des citoyens. Alors faut-il mieux protéger les journalistes ?
Le magazine du week-end, Émilie Chaudet.
C'est la question qu'on se pose aujourd'hui en compagnie de Fabrice Arfi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart, co-responsable des enquêtes. On peut citer l'affaire Bettencourt, l'affaire Cahuzac, l'affaire Kadhafi, dont vous êtes l'un des auteurs pour vous situer auprès des auditeurs. En face de vous, Leïla Mignano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, co-fondatrice du collectif YouPress. Vous faites partie également du collectif d'enquêteurs Disclose et Investigate Europe. Et au téléphone, Alexis Lévrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Reims, chercheur associé au CELSA et spécialiste de l'histoire du journalisme.
Aujourd'hui, les lecteurs nous demandent aussi ce qu'on appelle le making of. C'est-à-dire quand on obtient une interview, quand on obtient une information, ils ont envie de savoir comment on l'a obtenue. Alors, est-ce que là, vous pouvez nous révéler les personnes qui sont, on le sait, d'anciens proches à Madame de Rugy, qui vous ont envoyé les photos des homards et des bouteilles, et nous dire qui à Europe Écologie Les Verts vous a envoyé les cotisations pour que les lecteurs sachent que ça soit transparent, comment vous avez eu ces infos. Il n'y a pas de secret des sources là-dessus, mais il faut que ces gens-là assument aussi.
Bien sûr que si.
Alors dites-nous, qui vous a donné les infos ?
C'est la pierre angulaire du journalisme.
Oui. Qui vous a donné les informations ? Là, on a besoin
Je pense que Pascal Jalabert est très optimiste, mais on va vous laisser répondre, Michael
Hechdenberg. On les honorera, nous, si on les a. Et on va les avoir. Et on va les avoir.
Posez la question, dites-vous, c'est y répondre. Donc vous ne direz pas comment vous êtes entré en possession des tout premiers documents conduit à enquêter par la suite sur François Drugy.
Non, c'est le secret, c'est la base du journalisme. On protège les gens qui parfois mettent leur vie, leur profession en péril pour nous informer. Donc voilà.
C'est pas le cas, vous le savez, c'est des vengeances. Ce sont des vengeances.
Le début de cette interview... Attendez, laissez...
Allez-y.
Monsieur, si vous me laissez vous répondre, je peux peut-être vous expliquer.
Oui, allez-y.
En fait, c'est pas. Vous savez, nous, ce qui nous compte, c'est la véracité des informations. Hein.
Bien sûr.
Vous savez, il y a des gens qui nous informent. Ça peut être des ministres, comme ça peut être des bandits, comme ça peut être toutes sortes de gens. En fait, nous, c'est pas. On juge pas les gens. On juge la qualité de l'information. Ils donnent nos informations et on est précautionneux. On fait attention. On fait attention aussi en fonction de la personne qui nous donne ces informations. On les vérifie, on les recoupe. Et si elles sont exactes et si elles sont d'intérêt public, on les publie. C'est tout.
Séquence qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux depuis sa diffusion sur LCI le 18 juillet dernier. Pascal Jalabert, donc patron de presse du groupe EBRA, groupe de presse quotidienne régionale, somme Michael Hechdenberg de Mediapart, votre collègue Fabrice Arfi, de donner les sources qui lui ont permis d'enquêter sur l'usage illicite, notamment de l'indemnité représentative de frais de mandat de François de Rugy. C'est le point de départ, cette séquence de notre interrogation ici dans l'émission. On voit un journaliste demander à un autre journaliste de dévoiler ses sources. Qu'est-ce que cette séquence, déjà, pour commencer, Fabrice Arfi, vous a inspiré au sein de la rédaction de Mediapart?
Elle nous a inspiré, elle m'a inspiré d'abord l'immense admiration pour le calme, le stoïcisme même de mon collègue et ami Michael Hagedenberg, et la sidération devant l'attaque frontale et qui relève quasiment du défi cognitif d'un journaliste qui dit qu'il faut non seulement connaître les sources d'un autre journaliste, mais qu'il les trouvera. Ce qu'il dit, on va les trouver. Bon, ça a suscité tellement d'émotions professionnelles, y compris au sein du groupe EBRA, où évidemment plein de journalistes se sont désolidarisés de Monsieur Jalabert.
Qui s'est d'ailleurs excusé.
Voilà, qui a fini par s'excuser. Il y a eu des communiqués de presse de syndicats, mais au-delà du bruit, essayons de trouver le signal. Et le signal de ce que ça dit, c'est qu'à côté d'une, comme le disait très justement hier Claude Angéli dans les colonnes de Libération, d'un pouvoir qui quasiment par essence, enfin on va pas faire de la philosophie politique, mais qui voit le journalisme comme un adversaire, comme un ennemi, et le pouvoir actuel, et on pourra en reparler, à développer un certain nombre de mesures et de pratiques qui sont excessivement inquiétantes en si peu de temps, s'y ajoute aujourd'hui une équation étrange où les pires adversaires du journalisme sont parfois les journalistes eux-mêmes. Et donc là, on est dans une sorte de confusionnisme d'époque qui n'est pas rassurant, puisque ça n'est pas des journalistes dont nous parlons. Hein. Tout à l'heure, quand vous lanciez l'émission, vous disiez qu'il faut mieux protéger les journalistes. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière cette question, c'est le droit de savoir des citoyens. Nous ne sommes pas la question. Nous sommes juste une sorte de passeurs qui faisons ce métier bizarre de ne rien savoir, d'apprendre après avoir vérifié, de transmettre. La question, le personnage invisible de notre conversation, de cette conversation autour du journaliste, ce sont les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur cheminement, quel que soit leur positionnement politique, peu importe, ça n'est pas la question. La question, c'est celle de leur rendre ce qui leur appartient. Et ce qui leur appartient, c'est une sorte de bien immatériel qui s'appelle l'information, pour pouvoir décider. Décider en n'étant pas d'accord, dans la polémique, dans le bruit, dans le désordre, peu importe. Et nous sommes là pour ça. Et affaiblir ça, c'est affaiblir les citoyens.
Alexis Lévrier, au lendemain de cette séquence qu'on vient d'entendre, vous avez donné un entretien à La Voix du Nord. Et pour dire ce que vous inspirait cet échange, vous disiez, et vous rejoignez Fabrice Arfi sur ce point, il y a une confusion, c'est-à-dire que effectivement des journalistes demandent des sources, somment d'autres journalistes de donner des sources. Et il y a pour les citoyens donc une confusion avec une division entre les journalistes, entre ceux qui font leur travail et les autres qui défendent une certaine vision du pouvoir. Et c'est ça qui peut être véritablement dangereux.
Oui, je trouve que c'est assez inquiétant ce qui s'est passé pour l'affaire Rugger. Si les journalistes ne sont pas d'accord avec les révélations de Mediapart, ils peuvent faire une contre-enquête, ils peuvent essayer de montrer que c'était faux, que c'était surestimé. Mais il faut rappeler que la protection du secret des sources, c'est vraiment une des protections les fondamentales dont bénéficie la presse. C'était l'article 2 de la loi de 1881, et on a ajouté à cela une loi le 4 janvier 2010 qui précise que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public. Donc c'est pas l'idée que les journalistes seraient au-dessus des lois, mais ils ont une mission spécifique qui consiste à informer leurs concitoyens. Et de voir des journalistes, d'autres journalistes, ils ont le droit de pas être d'accord avec Mediapart. Mais à ce moment-là, qu'ils essayent de montrer que leurs révélations, que les révélations de Mediapart sont fausses. Mais essayer de remonter jusqu'aux sources, comme le disait Claude Angéli, ce que vous citiez, c'est ce que fait traditionnellement le pouvoir, qui a parfois été sous Pompidou jusqu'à mettre sur écoute la rédaction du Canard Enchaîné, mais de voir des journalistes participer à cette chasse aux sources me paraît extrêmement inquiétant.
Leïla Mignano, vous avez enquêté sur des affaires autrement sensibles, sur des terrains autrement plus compliqués comme la Centrafrique ou la Syrie. On peut citer votre travail sur votre projet Zéro Impunity sur le viol utilisé comme arme de guerre, notamment dans ces deux pays-là. Comment est-ce que dans ces contextes-là, vous pouviez convaincre vos sources de parler, de rester avec vous jusqu'à la fin de vos travaux, et comment est-ce que vous les protégiez, ces sources? Comment est-ce que vous leur garantissiez une protection ?
Effectivement, vous l'avez dit, je pense que la question de la protection des sources, c'est aussi un devoir du journaliste, c'est pas que un droit. Je pense que tous et toutes journalistes, quand des sources acceptent de nous faire confiance comme ça, on a ce devoir de protection, surtout quand, vous l'avez dit, qu'on est dans des zones extrêmement sensibles où vos sources risquent leur vie pour vous avoir parlé. Donc du coup, ça c'est une première chose, évidemment, on doit leur offrir toutes les protections, que ce soit sur la question des communications, on fait en sorte d'utiliser des moyens de communication avec nos sources qui les protègent, mais également si jamais on était amené à nous demander ces sources-là et à ne pas les donner, effectivement c'est la base du journalisme, comme le disait Michael, c'est la pierre angulaire de notre métier, ce qui fait que demain on nous donnera des informations, et surtout ce qui fait que la vie de nos sources qui elles vont rester en Syrie, qui elles vont rester en Ukraine après notre départ, pourront enfin continuer à vivre leur vie dans la mesure du possible. Donc comment est-ce qu'on fait pour les mettre en confiance? La particularité de ces sources-là, en tout cas, c'est qu'elles sont complètement invisibilisées. On leur a peu donné la parole, en fait. Donc du coup, une partie d'entre elles souhaite parler, en fait, souhaite que leur histoire, qui font rarement l'objet d'enquêtes judiciaires ou de sanctions, puisqu'on est dans des pays où les systèmes policiers, judiciaires, etc. sont par terre. Donc du coup, il y a cette première volonté pour certaines, en tout cas, de parler. Et ensuite, comment on leur fait confiance? Mais en leur proposant effectivement l'anonymat et le secret des sources, en leur garantissant que on va pas aller donner leur nom, leur identité, etc. Sachant que ces personnes-là vivent dans des régimes qui pourraient attenter à leur vie et à celle de leur famille le lendemain.
Est-ce que des officiels de ces régimes dont vous parlez, donc syriens ou centrafricains, vous ont déjà sommé de dévoiler vos sources?
En Syrie, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que on travaille rarement en.
Vous travaillez depuis vous avez travaillé depuis la Turquie.
Depuis la Turquie, donc du coup auprès des tortionnaires qui étaient détenus en Turquie à ce moment-là et en Jordanie. Donc du coup, les autorités jordaniennes savent pas sur quoi on travaille, en fait. Pareil, quand j'ai été en Syrie, je suis passée clandestinement en Syrie, je suis pas passée de manière officielle. Donc du coup, jusqu'à preuve du contraire, ils sont pas au courant. Et d'ailleurs, il vaut mieux ni pour les journalistes ni pour les survivantes de ces violences de savoir qu'on est sur place. Pareil pour l'Ukraine, en fait. Donc du coup, les pressions qu'on subit, c'est surtout malheureusement les pressions en France. Donc du coup, comme vous l'avez dit, je fais partie de Disclose et vous avez effectivement pu suivre que suite à l'enquête qu'on a publiée sur l'utilisation des armes françaises de manière offensive contre des populations civiles au Yémen, trois collègues de Disclose ont été auditionnés à la DCRI et une enquête du parquet antiterroriste a été ouverte quand même. On parle du parquet antiterroriste, celui qui est chargé de traiter le retour des djihadistes de Syrie en France. Mmh. Donc du coup, on en est là.
Cela rejoint, et c'est, on va encore citer Claude Angéli dans les colonnes de Libération hier, c'est un peu notre invité fantôme décidément, mais lui disait ce n'est pas le secret des sources qui est en danger, c'est le pouvoir de publier des choses. C'est-à-dire que l'affaire à laquelle vous faites allusion, Leila Mignano, sur cette vente d'armes françaises au Yémen, le Canard Enchaîné l'avait déjà sorti, mais sans en apporter la preuve. Preuve qu'a apporté Disclose, et c'est Disclose qui a été condamné pour violation du secret défense. Aujourd'hui, cette judiciarisation, on pourrait dire, d'un travail journalistique d'enquête, c'est vraiment une forme de dissuasion, d'intimidation.
Oui, et Claude Angéli a raison de parler de la liberté de publier. Vous savez, les journalistes ne travaillent pas au-dessus des lois. Hein. Il y a une loi générique qui, depuis 1881, régit pénalement notre travail, puisqu'on a à répondre de ce qu'on fait devant la loi, et c'est normal, ça nous responsabilise. Et dont l'article premier est absolument magnifique. Cet article premier dit « l'imprimerie et l'édition sont libres, point ». Il n'y a pas de sauf d'exception qui permet de déroger à cette liberté fondamentale. Et c'est vrai que l'on voit, et on a vu ces derniers mois, une frénésie judiciaire pour s'attaquer au journalisme, mais à son essence même, pas simplement à la véracité et à la bonne foi de notre travail, mais à l'essence même. Ça a été rappelé, des journalistes qui sont convoqués comme suspects par un service de renseignement intérieur, la DGSI, pour avoir révélé les mensonges du gouvernement, pour avoir prouvé les mensonges du gouvernement concernant une guerre qui est considérée par, par l'ONU comme la pire catastrophe humanitaire du moment. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Nations Unies. Et nous prouvons, puisque Mediapart, avec Disclose et d'autres médias, avons publié l'enquête de Mathias Destal, de Geoffrey Livolzi, de Michel Desprax et d'autres, le document des services secrets français qui prouve que oui, la France a vendu du matériel de guerre à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, qui sont utilisés dans une guerre qui, d'après l'ONU, fait des milliers de morts civiles. Premier point. Deuxième point, un journal, Mediapart, pour lequel je travaille, dans une enquête pour laquelle j'ai été l'un des co-auteurs, a révélé des informations qui embarrassaient le pouvoir sur l'affaire Benalla. La conséquence a été que, sur une fiction juridique du parquet de Paris, on a envoyé la brigade criminelle tentait de perquisitionner Mediapart pour fouiller dans nos ordinateurs, récupérer des documents dont l'objectif unique est évidemment de trouver nos sources. Et à cela, je peux ajouter, vous l'avez dit, les déclarations du président de la République sur une presse qui ne cherche plus la vérité, qui est une antiphrase parfaite, puisque dans l'affaire Benalla, sans la presse, il n'y aurait pas la vérité que l'Élysée voulait cacher. Mais c'est aussi la loi sur le secret des affaires, dont on voit qu'elle est utilisée aujourd'hui, notamment contre nos confrères du Monde, pour empêcher des enquêtes sur des crises sanitaires.
Au départ, sur le papier prévu pour empêcher l'espionnage industriel et qui en fait empêche des journalistes et des lanceurs d'alerte d'accéder à des informations.
Absolument. Officiellement, c'est pour lutter contre l'espionnage industriel entre entreprises. Pourquoi pas ? Bien sûr. Sauf que dans le détail, le texte a été rédigé de telle sorte qu'il puisse être utilisé contre le journalisme. Je peux ajouter la loi sur les fake news, dont le remède en réalité risque d'être pire que le mal. Les déclarations de la ministre de la Justice qui en est revenu, mais qui a dit qu'il fallait sortir le droit de la presse de la loi de 1881, ou le secrétaire d'État Cédric O qui a dit qu'il fallait un conseil de l'ordre des journalistes et pourquoi pas l'État qui se mêle de la publication des articles. Donc je dis tout ça parce qu'on est dans un écosystème culturel d'un point de vue démocratique, d'un pouvoir, c'est pas le seul, évidemment Emmanuel Macron et ses amis ne sont pas les seuls, mais qui ont beaucoup de mal à appréhender la presse comme un contre-pouvoir avec lequel il faut composer quand on dirige un pays.
Alexis Lévrier, vous l'avez rappelé, et Fabrice Arfi et Lina Mignano l'ont rappelé à la suite. Donc le secret des sources et la protection du secret des sources est consacré par l'article 2 de la loi de 1881, puis dans la charte de Munich, article 7 de 1971. Est-ce que là, on assiste dans l'histoire du journalisme, puisque vous en êtes spécialiste, à une situation inédite de fragilisation du secret des sources ?
Je trouve en tout cas qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Il faudra être vigilant. Ce qu'on a vu, Fabrice Arfi évoquait la perquisition à Mediapart. Et puis il y a en outre, ce qu'évoquait également Leïla Minano, les convocations à la DGSI, alors qu'ils ne sont pas quelque chose d'inédit, puisque je crois que Edoui Plenel avait été convoqué l'an dernier, l'année précédente, c'était Gérard Davé et Fabrice Lhomme, donc de grands noms du journalisme d'investigation, et ça s'intègre dans ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'État cherche toujours à remonter, à identifier les sources. Mais ce qui s'est passé en quelques semaines me paraît très grave cette année, puisqu'on a eu 9 journalistes qui ont été convoqués dans le cadre de 2 affaires. Il y a les ventes d'armes au Yémen, et il y a, pour ce qui est d'Ariane Chemin et de Louis Dreyfus, le président du Directoire du Monde, une loi de 2016 qui avait été votée dans le cadre des attentats terroristes et dont on ne pensait pas qu'un jour elle allait se retourner contre la presse, puisque effectivement cette loi interdisait de révéler l'identité d'un membre des unités des forces spéciales. Et là, comme dans un des volets de l'affaire Benalla, Ariane Chemin avait révélé l'identité de Chokri Wakrim, alors c'était vraiment à des fins d'intérêt général, parce qu'on essayait de dérouler les chevaux, de comprendre un petit peu quels étaient les tenants et les aboutissants de cette affaire Benalla. Et donc, on s'est servi de ça pour la convoquer et pour convoquer le président du Directoire du Monde. Donc, ça fait 9 convocations en quelques semaines, et c'est cette intensité qui me paraît inquiétante. Que le pouvoir cherche à identifier les sources, c'est une chose, mais que autant de journalistes en si peu de temps soient convoqués, à cela s'ajoute, comme on le disait, la perquisition à Mediapart, je trouve qu'on est vraiment dans un cadre qui est, alors c'est traditionnel en France, hein. Les velléités du pouvoir politique de contrôler la presse ont toujours existé, et singulièrement lorsqu'on a un pouvoir politique qui est très fort, qui est très centralisé, qui est très vertical. Et on sait que les modèles d'Emmanuel Macron en la matière, c'est il y a un imaginaire monarchique qu'il avait convoqué dès une interview en 2015, hein, il disait que les Français n'avaient pas voulu la mort du roi, et dans une interview à Challenge en octobre 2016, il s'était revendiqué de l'exemple du général de Gaulle, même de François Mitterrand, qui étaient des présidents qui revendiquaient un pouvoir très vertical et qui avaient tous, d'une manière ou d'une autre, essayé de limiter les pouvoirs de la presse. Et je pense qu'on est dans cette histoire de la verticalité du pouvoir. Emmanuel Macron, qui se veut un président jupitérien, comme ses prédécesseurs, à cette tentation de rendre plus difficile le travail des journalistes. Et évidemment, il est bon de lui rappeler qu'on est dans une démocratie où la presse a des droits.
Fabrice Arfi, vous souhaitiez réagir au propos d'Alexis Lévrier ?
Oui, mais d'abord, si, puisqu'on est sur un point historique, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une révolution en France en 1830 quand on a essayé de s'attaquer à la presse. C'était les ordonnances de Charles X, dont l'article premier était, je cite, « la liberté de la presse est suspendue ». Ça a provoqué la révolution de juillet 1830, dont aujourd'hui il y a toujours une trace à Paris, c'est la colonne place de la Bastille. Et le peuple est allé dans la rue, les citoyens sont allés dans la rue parce qu'on a attaqué la liberté de la presse. Donc ceux qui revendiquent une verticalité monarchique devraient faire attention quand on s'attaque à la liberté des citoyens de savoir ce qui leur appartient. Ce qui est très justement dit par Alexis Lévrier concernant la loi antiterroriste dont a été entre guillemets victime Ariane Chemin et Louis Dreyfus quant à leur convocation à la DGSI, c'est un peu la même essence et le même travers de mon point de vue que la loi sur le secret des affaires. J'ai fait partie d'un collectif qui s'appelle Informer n'est pas un délit, où nous avons essayé de tirer la sonnette d'alarme auprès du législateur pour leur dire attention, la façon dont vous faites la loi, ça va pouvoir être utilisé contre le journalisme. Et alors on a eu tout un tas de députés, de redéputés, de ministres pour nous dire, la bouche en cœur, qu'ils étaient pour la liberté d'expression. On ne trouve jamais quelqu'un pour dire je suis contre la liberté d'expression, et que nos inquiétudes étaient fortement exagérées. Et là on se retrouve un peu dans cet enseignement merveilleux de Machiavel. Est-ce qu'on ne fait pas des lois pour qu'elles soient seulement bien appliquées, on fait des lois aussi en faisant attention que leur objet ne soit pas détourné et mal appliqué. Et c'est précisément aujourd'hui ce qui se passe. On utilise la loi du secret des affaires contre le journal Le Monde qui veut informer sur des dispositifs médicaux qui créent des victimes et des décès. On utilise une loi antiterroriste qui vise les djihadistes pour protéger nos services de renseignement contre le journal Le Monde qui a été le premier à mettre sur la place l'affaire Benalla. Et donc cette judiciarisation pose un énorme problème et une situation quand même compliquée pour les journalistes où quand on publie des informations sur la foi de sources humaines, on nous dit vous avez pas de preuves, et puis quand on publie des informations avec des documents, on nous dit vous êtes des receleurs, les receleurs de la violation d'un secret.
Dans le cadre de l'affaire Bettencourt notamment.
Qui nous arrive très fréquemment, et l'affaire Bettencourt de ce point de vue-là est symptomatique. Les enregistrements étaient considérés comme la violation, le recel de la violation d'une atteinte à la vie privée. Nous avons été relaxés par le tribunal en première instance, puis en appel, mais ça a été 8 ans de procédure.
Leïla Mignano, vous faites partie d'un collectif qui s'appelle Investigate Europe, où vous travaillez aux côtés de plein d'autres journalistes d'enquête européens. Est-ce que eux vous disent dans quel contexte ils travaillent ? Est-ce qu'il y a des différences notables ? On peut se dire qu'en France, il y a une culture du secret défense, une institutionnalisation du secret et de la non-transparence au niveau des institutions politiques et de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des pays où c'est radicalement différent de l'expérience que vous avez, vous, au contact de ces autres journalistes ?
Oui, je pense que c'est un des premiers enseignements que j'ai eu quand j'ai commencé à travailler avec Investigate Europe, c'est que les discussions au début que j'avais avec ma collègue norvégienne étaient complètement lunaires. C'est-à-dire qu'elle me disait que, elle, la question de la transparence et de l'accessibilité aux documents administratifs en Norvège, les autorités ont 24 heures pour leur transmettre l'ensemble des documents et des mails des autorités administratives. Ils ont l'accès total aux factures de l'ensemble des membres du gouvernement et du Parlement. C'est incroyable. Nous, la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs, c'est des mois avant d'avoir une réponse. Quand on a une réponse et quand les documents sont pas totalement biffés, on n'est pas du tout dans le même univers, quoi. Et donc, du coup, à chaque fois que je travaille avec elle, j'essaye de faire en sorte d'avoir des affaires communes avec elle, puisque potentiellement, j'ai plus de chances, moi, d'avoir des documents en passant par la Norvège que elle en passant par la France. Après, il y a pire que nous. Enfin, je veux dire, il y a pire que nous. Mais globalement, je pense qu'on fait partie des plus mauvais élèves. Travailler avec les autres collègues, les confrères et consoeurs européens, c'est vraiment un enseignement. Nous, on est obligés de passer par d'autres voies parce qu'on a rarement 1 an et demi, 2 ans à attendre avant d'avoir les documents dont on a besoin.
Alexis Lévrier, donc si on revient à cette loi de 1881, à ces chartes, à cette charte de Munich notamment, et que l'on voit aussi aujourd'hui cette législation sur la loi sur le secret des affaires qui fragilise le travail de certains journalistes, la loi sur les fake news, en fait, comment la législation française peut un peu plus aujourd'hui se mettre du côté du travail journalistique ? Est-ce que la notion d'intérêt général doit figurer dans une législation de manière plus centrale et plus claire aujourd'hui pour permettre la protection du secret des sources notamment, mais aussi tout simplement et plus globalement la possibilité d'un travail journalistique sans entrave?
Et je pense qu'il y aura certainement besoin d'un rééquilibrage, parce que là, on vient de vivre coup sur coup un ensemble de lois qui ont fragilisé le travail des journalistes. Alors, c'est toujours un équilibre précaire, parce qu'il y a aussi le secret défense, il y a les secrets d'État, il y a aussi la diffamation. Et la loi de 1880 était un modèle d'équilibre, puisqu'elle garantissait aussi que la presse ne puisse pas diffamer, qu'elle ne puisse pas propager de fake news. On parlait de fausses nouvelles à l'époque, mais il n'y a pas besoin de créer une nouvelle loi sur les fake news. Il y a déjà un volet de la charte de la loi de 1881 qui portait là-dessus. Donc, c'est toujours un équilibre et les journalistes parfois peuvent commettre des erreurs, peuvent parfois aller trop loin dans leur méthode. Mais là, on vient de vivre avec la loi sur le secret des affaires, puis la loi sur les fake news, tous les projets autour de ce conseil. Alors, je pense que l'expression conseil de l'ordre qu'avait employé Cédric O, il l'a immédiatement corrigé en disant qu'il voulait parler d'un conseil de déontologie. Et le conseil de déontologie, par exemple, ça serait une bonne mesure, puisque c'est d'ailleurs une des revendications du SNJ, le principal syndicat de journalistes depuis pratiquement ses origines, que de mettre en place ce conseil qui serait géré par des journalistes eux-mêmes. C'est d'autorégulation et l'autre idée, c'est de la médiation à l'égard du public. Donc, si c'est un conseil de déontologie où il n'y a pas la tutelle de l'État, alors ça peut être une bonne mesure. Mais je crois que vous le disiez à juste titre, il faudrait rappeler, et il faut d'abord le rappeler aux lecteurs, aux auditeurs, aux téléspectateurs, que si les journalistes font un travail d'enquête, c'est au service du public. Ils n'entravent pas la loi, ils font pas comme ça des enquêtes par plaisir. C'est au nom de l'intérêt général. Et ça, je crois qu'il serait bien que dans l'appareil législatif, on l'enregistre et qu'on prenne davantage conscience de la nécessité impérieuse de protéger le travail des journalistes.
Leïla Mignano, vous souhaitez réagir ?
On a parlé du secret des affaires, de la nouvelle loi, mais je pense qu'il faudrait qu'on parle aussi du secret de la défense nationale, donc du coup qui est souvent utilisé comme un fourre-tout en fait pour cacher absolument tout, et notamment qui fait du ministère des armées aujourd'hui une zone qui est très peu enquêtée. Enfin, on l'a vu avec effectivement les convocations à la DCRI, donc il s'agissait pas de dévoiler toutes les positions où se trouvaient les gens qui les mettaient en danger, mais simplement savoir que l'industrie de l'armement aujourd'hui vendait des armes qui étaient utilisées contre les civils en fait, et très souvent le ministère des armées se trouve à utiliser cette loi-là pour y compris intimider les journalistes. Si vous publiez ça, vous êtes sous le coup de cette loi. Je sors une enquête avec une collègue Justine Brabant en septembre, c'est ce qu'on s'est vu répondre, qu'on demandait en contradictoire. Si vous publiez cette information-là, eh ben vous êtes sous le coup de la loi du secret défense. Qu'est-ce que c'est que d'autre que d'une intimidation ? C'est une intimidation des journalistes. Donc du coup...
Vous vous préparez à passer au tribunal
Peut-être à une convocation, peut-être à autre chose, etc. Mais je pense que dans ces moments-là, il faut aussi avoir des éditeurs, des rédactions qui sont fortes. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est aussi ça que permet Disclose ou Investigate Europe. On n'est plus une seule rédaction, un seul journaliste ou une seule journaliste face à un ministère ou à une grosse multinationale. Mais on est 10 rédactions, on est 15 journalistes, etc. Et qui sont solidaires face à toutes ces attaques. Solidaires, évidemment, puisque on invite toutes ces personnes-là à communiquer leur solidarité, mais également solidaire au niveau des attaques judiciaires, parce qu'un procès, ça coûte cher. Un procès, ça coûte cher. Et là, par exemple...
Et ça mobilise du temps.
Ça mobilise du temps. Et potentiellement, quand on est journaliste indépendant, ça peut poser aussi des questions financières, etc. Donc cette solidarité-là qui se crée à travers ces groupes permet tout ça.
Fabrice Arfi, vous souhaitiez réagir ?
Oui. Pour que les auditeurs comprennent, il ne s'agit pas de dire du tout qu'il ne faut pas de secret en démocratie. Bien sûr qu'il faut du secret en démocratie.
Il faut déterminer l'intérêt.
Mais bien sûr qu'il faut du secret défense. L'électeur. Bien sûr qu'il faut protéger les intérêts supérieurs d'une nation. Bien sûr qu'il faut du secret médical. Bien sûr qu'il faut du secret de la vie privée. Pourquoi pas du secret des affaires pour que les entreprises ne s'espionnent pas les unes les autres. Le problème que nous avons, nous, journalistes, sur le terrain français, spécimen sociologique de nous-mêmes que nous sommes, c'est qu'en France, le secret est mal défini et il est mal contrôlé. Donc quand il est mal défini et mal contrôlé, comme le disait très justement Leïla, il est utilisé pour protéger des intérêts qui n'ont rien à voir avec les objets, avec l'objet que le secret doit protéger. Et c'est comme ça que dans des enquêtes judiciaires ou dans des enquêtes journalistiques, le secret défense est aussi opposé à la justice pour protéger la corruption. Alors que ça n'a rien à voir avec la défense nationale. On l'a connu dans plusieurs affaires, et l'affaire des frégates de Taïwan, qui est une vieille affaire des années 90, en témoigne. Ce qu'il faut bien que comprennent, je crois, les gens qui considèrent qu'on peut attaquer impunément le journalisme, c'est que ils s'extraient eux-mêmes de ce qu'est la jurisprudence européenne et française en la matière. Ce que nous disons là, ce que Leïla dit, ce que Alexis dit, ce que je dis devant vos, face à vos auditeurs, c'est pas notre petit plaisir corporatiste. Je vais citer juste un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, hein, qui est la justice supranationale à laquelle la justice française, qui est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, doit se conformer. Hein. C'est un arrêt qui date de 1976. Donc c'est une vieille affaire. Ça s'appelle l'arrêt Handicide. Et qui dit que la liberté d'expression, la liberté d'informer dans une démocratie consiste à pouvoir publier des informations, je cite, qui heurtent, qui choquent, voire qui inquiètent tout ou partie d'une population. Qui heurtent, qui choquent, voire qui inquiètent. Ça n'est pas rien. Et donc, les corps constitués, ça va des syndicats à l'armée, en passant par la présidence de la République, les ministères, les services de renseignement, les multinationales, doivent s'y faire. Nous ne sommes pas des enfants de cœur. Nous ne sommes pas là pour faire une sorte de maïeutique et accoucher la communication des autres. Nous sommes là pour publier des informations vraies et d'intérêt public qui parfois, oui, créent du désordre. Pas du désordre physique, mais du désordre démocratique. C'est ça la démocratie, c'est le conflit. C'est le conflit des idées, c'est le conflit des opinions. Et les opinions n'existent que parce qu'il y a des faits. Et nous sommes là pour produire des faits.
Alexis Lévrier, tout à l'heure, Fabrice Arfi rappelait qu'en 1830, des gens étaient sortis protester contre des atteintes à la liberté de la presse. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut observer des attitudes des citoyens, des lecteurs, des auditeurs face à ce que l'on observe de ces législations qui entravent un certain travail journalistique, de ce discrédit jeté sur certaines enquêtes?
Ben, c'est ça qui est inquiétant. Fabrice Arfi rappelait à juste titre que la révolution de 1830, c'est une révolution du journalisme, pour le journalisme, pour protester contre la suspension de la liberté de la presse, et que ça a permis de passer à la monarchie du Visé. Donc ça a été une date très importante. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a un mouvement social qui a marqué toute cette année, qui est le mouvement des Gilets jaunes, et qui, à l'inverse, s'est caractérisé par une grande violence, y compris physique, à l'égard des journalistes. Alors je pense qu'il y a une relation un petit peu, qui a toujours été schizophrénique entre les journalistes et leur public. Dès le XVIIe siècle, on s'apercevait que les lecteurs avaient plaisir à étudier, à lire le travail des journalistes en commun pour le remettre en cause. Et ils se prenaient en quelque sorte pour des journalistes, ils discutaient dans les cafés, dans les lieux publics, et ils essayaient comme ça de rivaliser avec la presse. On a toujours cette situation de concurrence et de rivalité entre les lecteurs et la presse. Le problème, c'est qu'avec le mouvement des Gilets jaunes, alors qu'ils aient produit, c'était très intéressant de voir qu'ils produisaient leurs propres médias. Moi, je trouve que c'est toujours bien qu'il y ait une vitalité comme cela médiatique. Mais quand ils s'en prenaient après physiquement à des reporters de BFM, de CNews, mais aussi à de la PQR, donc la presse quotidienne régionale ou départementale, des gens qui, traditionnellement, en avaient une bonne image, la presse locale a toujours eu une meilleure image que la presse nationale, or elle a été elle-même victime d'agressions physiques. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, et je trouve que de ce point de vue-là, les politiques ont vraiment une responsabilité immense. On a vécu une campagne présidentielle de 2017 où pratiquement tout le monde a instrumentalisé cette méfiance à l'égard de la presse. C'est comme si les politiques qui eux-mêmes sont discrédités essayaient comme ça de se rehausser un petit peu en attaquant les journalistes. On a fait siffler même un ancien premier ministre comme Jean-Pierre Raffarin a fait siffler les journalistes dans un meeting de François Fillon. Ça, c'était quelque chose de totalement inédit, qui jusque-là était l'apanage plutôt des partis populistes, des partis d'extrême droite notamment. Et là, c'était un ancien premier ministre, quelqu'un qui est un centriste, quelqu'un de très modéré, qui a fait siffler des journalistes dans un meeting. Et quelque part, le mouvement des Gilets jaunes, son agressivité en tout cas à l'égard de la presse, c'est un peu le prolongement de cette agressivité et parfois de cette violence verbale dont les responsables politiques ont fait preuve à l'égard des journalistes.
Alors, en réponse à cette défiance que vous évoquez, Alexis Lévrier, et puis pour se protéger aussi face aux attaques dont la presse peut être la cible, y compris du pouvoir, de la part du pouvoir, il y a ce mot qu'on n'a pas encore cité depuis le début de l'émission, qui est celui de l'indépendance. C'est quelque chose, par exemple, à Mediapart, vous avez créé vous avez mis dans votre capital quelque chose, vous allez expliquer beaucoup mieux que moi, Fabrice Arfi, qui garantit l'indépendance à vie du journal. Leïla Mignano, vous, le fait de vous inscrire dans des collectifs de presse et de pouvoir travailler ensemble, publier des informations ensemble, des informations sensibles, ça vous garantit une force tout en restant indépendante. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la réponse que l'on peut apporter en tant que journaliste qui veut continuer à faire de l'enquête, c'est de rester indépendant, Fabrice Arfi?
C'est la question principielle, en fait. C'est même la question fondamentale que vous posez. Bien sûr qu'il faut de la critique des médias. Je veux dire, il faut faire attention à ne pas donner l'impression que nous sommes là à dire tous les journalistes sont formidables, tous les médias travaillent hyper bien, c'est une profession qui est massivement détestée. Attention à ne pas essentialiser non plus. C'est-à-dire, les médias, ça n'existe pas. Il y a des médias et dans les médias, il y a des journalistes. Bon, mais il y a une frontière qui est franchie, c'est celle de la critique des médias vers la haine du journalisme. Et en effet, dans la critique des médias, je trouve juste, qu'on doit prendre en considération, c'est celle sur les liens d'intérêt et la non-indépendance d'un certain nombre de titres de presse avec des intérêts qui échappent à l'information. Ça n'est pas une position outrée que de dire qu'aujourd'hui, l'essentiel des médias privés appartiennent à des capitaines d'industrie dont le cœur d'activité et le chiffre d'affaires des multinationales qu'ils dirigent ont des intérêts parfois divergents avec une information libre et indépendante. Ils vendent des armes, ils font de la téléphonie mobile, ils font du BTP, pour certains ils font tout ça mélangé. Ils ont des rapports avec les gouvernements français de droite ou de gauche parce qu'ils en ont besoin dans la commande publique. Ils ont des rapports avec des dictatures étrangères parce que pour eux ce ne sont pas des dictatures, ce sont des clients. Donc le capital, pour répondre à votre question, le capital des journaux est évidemment au cœur de la question de l'indépendance. Et Mediapart, pour essayer de résoudre ça, on s'est inspiré du Guardian en Angleterre, qui nous a d'ailleurs aidé, les confrères du Guardian, pour ça devra se faire à l'automne, créer une sorte, ce qui s'appelle en droit un fonds de dotation qui permettra que, à jamais, le capital de Mediapart soit cessible, vendable, achetable, spéculable, de sorte qu'il n'arrive jamais à Mediapart, ce qui est arrivé à Libération, au Monde ou à d'autres, qui ont perdu leur indépendance capitalistique. C'était des journaux qui appartenaient à leurs journalistes, à leur rédaction, et qui aujourd'hui appartiennent à des grands capitaines d'industrie. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce que fait Libé ou Le Monde. Il y a des choses évidemment absolument merveilleuses. Mais nous, on veut se protéger de cet écosystème-là pour empêcher que des intérêts privés et extérieurs à ceux de la rédaction s'emparent de la rédaction.
Leïla Mignano, vous aurez le mot de la fin. Est-ce que pour se protéger et rester indépendant dans son travail, puisque c'est une des seules réponses qui demeurent possibles, on voit que dans la presse locale, certains journalistes déplorent de ne pas pouvoir faire d'enquête, d'une part par manque de moyens financiers, de temps, mais aussi parce que les patrons parfois qui régissent les groupes de presse dont ils sont issus ne le permettent pas ou ne le souhaitent pas. Vous travaillez donc au sein de collectif essentiellement et en indépendante. Est-ce que c'est un des derniers remparts, on va dire, pour produire de l'information, de l'enquête de terrain indépendante?
Je vais vous donner une petite anecdote peut-être. Il y a 3 ans de ça, il y a même 4 ans, en 2015, j'avais enquêté sur les viols commis par l'armée française en Italie pendant le débarquement. Donc des viols de masse, on parle de viols de guerre. Et donc du coup j'avais réussi à obtenir pas mal de documents qui prouvaient, ou dans lesquels, avec des procès-verbaux, où les militaires avouaient avoir commis ces viols, etc. Et donc du coup pendant 2 semaines, j'ai appelé toutes les rédactions avec lesquelles je travaille, et pas une seule rédaction ne voulait publier ça pour l'anniversaire du débarquement.
Quelle raison invoquait-elle ?
C'était pas l'image qu'on voulait avoir des libérateurs. Donc du coup, j'étais là, des gens que je connaissais a priori, avec qui je travaillais en confiance, etc. C'était ça la réponse qu'on m'apportait. Mes collègues du collectif YouPress qui étaient autour de moi, qui me voyaient me démener, appeler, expliquer, justifier. Effectivement, je parlais pas de... J'avais les documents qui prouvaient qu'il y avait absolument aucun doute, en fait, sur les milliers de viols commis par l'armée française au moment du débarquement. Et donc du coup, ils étaient là, mais écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas abandonner? Mais je me dis, je peux pas, ça fait 2 mois que je travaille dessus, je veux pas abandonner. Et à la fin, j'ai réussi au bout de la 11e rédaction à faire publier l'article. Et donc du coup, je pense que si j'avais pas
du
été
coup,
dans Libération, et donc du coup, parce que j'avais une collègue qui était convaincue de l'intérêt, et donc du coup qui a convaincu sa rédaction de publier l'affaire, de publier le sujet au moment du débarquement. Et donc du coup, ça, si j'avais pas été indépendante, si j'avais été dans une rédaction qui m'avait dit non, qu'est-ce que j'aurais fait? Et donc voilà.
Eh bien, merci à vous trois, à Fabrice Arfi, Leïla Mignano et Alexis Lévrier d'avoir été avec nous en plateau pour parler du secret des sources et de la protection du travail des journalistes aujourd'hui. Et tout de suite, on part au Soudan. Forget those who divide us, oublie ceux qui nous divisent, titre du chanteur soudanais Kamal Tarbas, une manière d'entrer tout doucement dans le deuxième sujet de notre émission. Le Soudan célèbre depuis hier un accord historique de transition vers le pouvoir civil, accord qui répartit le pouvoir entre les manifestants issus de la société civile et les militaires. Aujourd'hui doit être nommé parmi les civils un premier ministre, issu inespéré au bout de plus de 6 mois de violence dans le pays. Tout commence en effet en décembre dernier lors d'un mouvement populaire spontané contre la pauvreté et les inégalités. La classe politique prend le relais et une vingtaine de formations réclament un changement de régime. Et ce n'est qu'en avril que le président Omar El-Béchir est destitué au bout de 30 ans de pouvoir. Après 4 mois de contestation réprimée dans le sang, 49 personnes sont mortes. Et les massacres par les forces paramilitaires ont continué en ce dernier mois de juin parmi les manifestants, faisant plus de 140 morts et 400 blessés. Alors cet accord aujourd'hui est le point final d'un long chemin, ou pourrait-on dire le point de départ d'un nouveau cap politique au Soudan, et nous en allons en parler avec Anne-Laure Mahé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse sur l'Afrique de l'Est à l'INSERM, Institut de recherche stratégique de l'école militaire. En face de vous, Gérard Prunier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste du Soudan.
Nous respecterons l'accord que nous avons signé à la lettre. Et même si nous n'avions pas signé cet accord, nous devons travailler dans ce sens. Parce que c'est dans l'intérêt de notre pays et pas dans l'intérêt personnel. Là, nous devons mettre en œuvre cet accord. le soutenir. Le Soudan est entré dans une nouvelle phase de sa transition. Et cette phase exige des intentions sincères et honnêtes. Elle implique que le peuple tire des leçons des erreurs du passé. Et là, nous quitterons le Soudan d'avant. Le Soudan est un très grand pays. Ce n'est pas le Soudan tel qu'il est décrit et montré sur Internet. Il y a une multitude de vallées, de villages. Nous ne voulons pas d'un pays isolé, mais au contraire d'un pays qui compte avec les autres. Les gens demandent un accès à Internet quand d'autres ne peuvent même pas trouver de l'eau potable.
C'est la voix de Mohamed Hamdan Dagalo, dit Emeti, le numéro 2 du Conseil de Transition. C'est un visage et une voix qui n'incarne pas pourtant la transition politique et le changement. Il a été le commandant de l'une des plus puissantes milices arabes du Darfour, figure proche de l'ancien gouvernement, tout comme le numéro 1 de ce Conseil. Qu'est-ce que ça dit de cette transition politique? Est-ce que les civils soudanais ne risquent pas de se la faire voler, cette transition, Gérard Prunier?
Oui, mais enfin, c'est typique que ce soit lui que l'on entende, parce qu'il représente à l'heure actuelle le pouvoir, avec un P majuscule. Et cet accord, qui a été d'ailleurs très difficile à mettre sur pied, qui ne s'est débloqué que lorsque les Américains ont envoyé, une équipe dirigée par Tibor Nagy, qui est le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, qui a débloqué les choses, probablement avec un certain chantage, qui a été effectué par le biais de l'Arabie Saoudite, qui est l'acteur, avec les Émirats Arabes Unis, principal dans tout ce qui se passe depuis le 19 décembre. Finalement, un accord a été signé. Et je dirais que c'est plus un geste d'espoir et un pari sur le futur que le fait de prendre acte de quelque chose qui se serait vraiment passé. Depuis le 4 juin et le massacre des gens qui occupaient l'esplanade devant le siège des forces armées, on est dans un état de suspension animé. Et bon, on a obtenu cet accord, je dirais, comme un moindre mal. Et quand ce monsieur dit, je ne sais pas si c'est de l'humour ou si c'est le cas, c'est involontaire, nous allons respecter tous ces termes, c'est d'autant plus aisé que les termes sont extrêmement élastiques et imprécis. Donc, on est à l'heure actuelle dans une situation où on est un petit peu comme dans un dessin animé où le principal personnage court jusqu'au bord de la falaise, continue à courir et tout d'un coup regarde en dessous de lui, s'aperçoit qu'il n'a plus les pieds sur le sol. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'il y a un espoir énorme.
Un espoir énorme au sein de la population. On voit des photos depuis hier de scènes de liesse, des visages de la population civile qui sourit, qui vraiment retrouve l'espoir. Et pourtant, vous parliez, Gérard Prunier, du massacre du 4 juin. Le lendemain, les mêmes militaires qui avaient organisé cette répression très sanglante parmi la population, 136 morts, 400 blessés, 70 viols selon les chiffres. Le lendemain donc de cette journée sanglante, les militaires annulent tous les accords conclus entre l'armée et les organisations de la société civile. Pourquoi aujourd'hui, Anne-Laure Mahé, est-ce que cet accord pourrait marcher? Est-ce que déjà il pourrait fonctionner?
Écoutez, moi j'ai pas de boule de cristal pour vous répondre avec exactitude. En l'état actuel des choses, c'est un accord qui, même si, comme le disait Gérard Prunier, les termes sont élastiques, il va falloir voir dans la pratique qu'est-ce qui se passe exactement. On sait très bien que c'est pas parce qu'on a une constitution qu'elle est nécessairement toujours respectée et qu'on a des acteurs qui sont tout à fait capables de trouver des moyens auxquels on n'avait pas pensé de contourner les règles. Mais les règles aujourd'hui sont là, elles sont établies, elles sont fixées. Et la question, c'est au moment où nécessairement quelqu'un ne va pas les respecter. Il y a plus de chances que ce soit les militaires. Est-ce que les garde-fous qui ont été mis en œuvre vont pouvoir fonctionner? Est-ce que la vigilance peut-être de certaines organisations internationales comme l'Union africaine, de certains partenaires importants qui ont été mentionnés, hein, l'Arabie saoudite, également les pays, les Émirats arabes unis, l'Égypte également, hein, qui dirige l'Union africaine cette année, est-ce que ces acteurs-là vont continuer à jouer un rôle et quel rôle ils vont continuer à jouer? Est-ce qu'au moment où on aura ce genre de défi qui va se poser, ils vont se positionner du côté des civils ou du côté des militaires?
Alors, ce qu'on observe surtout dans ce qu'on voit là, cet accord qui a été obtenu au bout de mois de contestation, de répression, c'est quand même la détermination du peuple soudanais. Cette vague révolutionnaire de 2018-2019, ça a eu pour effet de diffuser un sentiment d'unité nationale. On a vu des slogans « Nous sommes tous Darfour ». Alors, vous réagissez, Anne-Laure Maï, sur l'unité nationale. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Est-ce que justement le peuple soudanais, est-ce qu'il y a des divisions, est-ce qu'il y a des divergences de vision et d'attente au sein du peuple soudanais?
Alors bien entendu, hein, on est dans un pays qui est un très grand pays. En fait, quand vous parlez voilà de ces slogans, nous sommes tous des Darfouris, c'est vrai que finalement ça a eu l'intérêt ça, parmi les ce que ça a pu apporter, le sit-in notamment, etc., et que ça a apporté une connaissance pour certaines personnes, y compris parmi les élites éduquées de Khartoum, qui n'avaient jamais vraiment compris ce qui s'était passé ou su. Ce qui s'était passé au Darfour par une forme d'aveuglement peut-être un petit peu voulu, organisé par le pouvoir certainement. Ceci étant dit, pour un certain nombre de personnes originaires de cette région-là, ainsi que des autres régions périphériques où on a eu des conflits, ça, dans quelle mesure on est dans des slogans sans importance, ça reste à voir. Et il reste quand même une certaine, non pas animosité, mais une certaine méfiance, une certaine... rancune en quelque sorte de, en fait pendant des années vous n'étiez pas là, pendant des années vous n'avez pas écouté ce qui se passait, il a fallu que ça vous atteigne, enfin voilà, que la crise économique vous atteigne, que la violence du régime vous atteigne pour que vous réagissiez. Et alors nécessairement tout le monde n'a pas ce discours là et c'est très diversifié, mais donc ça reste quelque chose qui est encore à construire. Et c'est pour ça que on entend parfois certains Darfouris en fait soutenir Emeti malgré les exactions qu'il a commises au Darfour, parce que finalement c'est quand même quelqu'un du Darfour qui arrive au pouvoir avec un grand P comme Gérard Prunier le disait. Donc on a vraiment des positions multiples, ambivalentes. On a également des distinctions entre ceux qui sont plus pragmatiques, hein, qui voulaient négocier avec les militaires, et ceux qui sont plus radicaux. Vous avez des comités révolutionnaires qui sont mis en place au niveau local. Et qui vont nécessairement, c'est des dynamiques qui vont continuer durant la transition et qui vont influencer en fait son déroulement.
Gérard Prunier, ce sont les militaires qui ont la main là de ce conseil de transition démocratique. Est-ce que ces militaires-là ont la main? Est-ce que les civils se sont accordés à leur donner pour commencer les manettes du pouvoir parce qu'il n'y avait pas de préparation? Est-ce qu'ils n'étaient pas préparés, eux, cette société civile, les gens issus de cette société civile, à prendre ce pouvoir finalement?
La société civile est une contre-société. Nous sommes dans une situation révolutionnaire. En ce moment, la chaufferette révolutionnaire est un peu arrêtée, dans un état de refroidissement partiel et temporaire. Ce que ça donnera demain, on ne le sait pas. Et on n'est pas vraiment en face des militaires, avec des guillemets, dans le sens où on l'entend en général. C'est pas l'armée soudanaise. Nous sommes en face d'une armée mercenaire, d'où toute l'ambiguïté je suis d'accord avec vous, l'ambiguïté du slogan « Nous sommes tous des Darfouriens ». Oui, très bien, mais ça veut dire quoi? Les massacreurs étaient des Darfouriens et les victimes aussi. Alors évidemment, les massacreurs agissaient en porteurs, on pourrait dire, quand on veut reprendre les classifications de la population soudanaise, qu'on appelle Aulad al-Beled ou Aulad al-Bahar, c'est-à-dire les gens de la vallée, c'est-à-dire le cœur politico, économico, historico, tout ce qu'on veut, du Soudan. Ceux qui tuaient le faisaient pour le compte des gens de Khartoum. Alors évidemment, si les manifestants veulent dire nous sommes du côté des victimes de ce processus, très bien. Mais il ne faut pas oublier que l'homme qui est au pouvoir, lui, est un membre des assassins. C'est-à-dire, et d'où l'ambiguïté, là aussi vous avez raison, de dire, oui, il y a des gens qui disent oui, mais après tout, il n'est pas Aulad al-Beled, c'est quelqu'un de la périphérie colonisée. Parce qu'on a toujours vu la guerre au Soudan pendant les 30 dernières années entre le nord, un nord dit arabo-musulman, et un sud dit africano-chrétien. Bien. On oublie un tiers de la population, c'est-à-dire les Noirs, les gens qui ne sont pas des Arabes et qui sont musulmans. Ça, c'est le troisième tiers. Or, le Darfour est tout à fait l'expression de ça. Et d'autres régions qui sont encore en état de conflit, comme le Nil Bleu, comme le Kordofan, et qui ne sont absolument pas englobées. D'ailleurs, c'est les représentants des mouvements armés ont refusé de rentrer dans l'accord. Bon, pour le moment, ils sont l'arme au pied. Mais est-ce que ça veut dire que leurs revendications, leurs frustrations, ce sont des gens qui se sont battus du côté des sudistes, bien que musulmans, ils se sont battus aux côtés des chrétiens contre les arabes. Et maintenant, ils sont coincés dans une nouvelle frontière qui a été appliquée, d'ailleurs selon les vieilles lignes coloniales et pas du tout selon l'expression de ce qui s'est passé depuis 1956, mais ils sont coincés dans une nouvelle géographie, quoi. Et par contre, cette géographie s'est projetée, puisque Monsieur Hemeti, que nous avons entendu en introduction, les représente, lui aussi.
Et ce Monsieur Hemeti, donc, que nous avons entendu en introduction, donc le numéro 2 de ce Conseil de transition, terminait son intervention par « Maintenant, il va falloir savoir ce que l'on veut. Il y en a qui veulent une connexion Internet quand d'autres recherchent juste de l'eau potable. » Il met l'accent sur ces divergences d'attentes de la population soudanaise. Et quand on voit cette population soudanaise qui a manifesté, elles se sont organisées, ce sont des professions, vétérinaires, pharmaciens, médecins, donc des gens plutôt, ces gens qu'on dit issus de la société civile, mais plutôt instruits, plutôt des catégories supérieures, qui ont su s'organiser en dehors des syndicats. Les icônes de la révolution, de cette révolution soudanaise sont présentées comme étant des jeunes femmes, des étudiantes, de jeunes étudiantes. Est-ce que, justement, donc, une partie de la population soudanaise et donc peut-être la majorité, les plus démunis, sont les grands oubliés de cette révolution? Anne-Laure Mahé ou Gérard Prunier?
Ils ne sont pas vraiment Gérard Prunier. Oubliés. Non, parce que les gens éduqués ont créé, après les massacres de septembre 2013, ça c'est le point de coupure, il y a eu la première tentative, les armes à la main, pour essayer de les faire sauter. Ça n'a pas marché. Après ça, les syndicats ont disparu. On a recréé des syndicats clandestins, parallèles, avec d'autres noms, etc. Mais qui, en même temps, incarnaient le sentiment profond de la population de la vallée et des régions qui se rattachent. C'est l'expression arabe est incontournable. Aoulad al-Bahar, les enfants de la rivière, les enfants du fleuve. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la population était totalement coupée? Non, pas du tout. Mais il y a effectivement, vous avez raison de dire, oui, il y a quand même deux groupes sociaux à l'intérieur de cette contestation. Ils sont tous les deux arabes, entre guillemets, hein, avec toute l'ambiguïté que ce terme porte en Soudan. Mais il y a les gens des classes supérieures et les gens des basses classes. Bon, c'est clair. Mais c'était unitaire. Et c'est pour ça qu'on a jeté la tête de Béchir au peuple, avec cette ambiguïté un peu français 1793. Oui, on a jeté sa tête. Et les gens qui sont au pouvoir à l'heure actuelle, les militaires, parce que malgré l'accord, c'est eux qui gardent la réalité du pouvoir, ils espéraient que ça suffirait. Ça n'a pas suffi. Et c'est intéressant en soi. Ça montre que tout la manière de déguiser ce qui s'est passé au Darfour sous le masque de l'intérêt national, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Maintenant, est-ce que c'est Monsieur Hemeti qui est l'héritier des gens qui ont souffert au Darfour? Ça serait plus que paradoxal, mais je voudrais juste terminer là-dessus. Il y a une chose horrible, épouvantable. Dans les camps de réfugiés intérieurs au Darfour, les enfants des victimes, enfin, ou des survivants, sont en train de s'engager dans les forces d'Hemeti. La misère est telle que les victimes de ces massacres, enfin, ceux qui ont survécu, parmi les jeunes, s'engagent dans cette armée.
Et qu'est-ce que ça laisse présager pour l'avenir du Soudan, Anne-Laure Mahé? Ce que vient de dire Gérard Prunier.
Ça laisse présager. On a un problème dont on savait que c'était ce problème-là qui allait se poser au moment, hein, parce qu'évidemment, tout le monde sait qu'éventuellement, le régime ne durerait pas éternellement. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait des Rapid Support Forces, qui sont les forces de Hemeti, qui sont des forces, comme vous le disiez, de mercenaires, qui est assis sur des mines d'or, en fait, hein, assez littéralement. Et grâce à l'or et grâce également à l'aide de vu que ce sont les RSF qui combattent pour le Soudan dans la coalition au Yémen avec l'Arabie Saoudite, grâce à l'argent qu'ils récupèrent de cette façon-là en vendant ses forces, Imeti a de quoi effectivement venir payer, proposer voilà une trajectoire presque d'ascension sociale pour un certain nombre de personnes, de jeunes, voire très très jeunes gens. Actuellement, c'est difficile de savoir ces troupes, hein, combien ils sont. Ils sont bien inférieurs à ce qu'est l'armée normale, on va dire l'armée régulière. Mais ce sont des forces qui sont moins formées nécessairement, plus difficilement maîtrisables, plus mobiles. Et qui vont peut-être aller croissant. Et qu'est-ce que ça va faire, par exemple, d'essayer de réintégrer ces forces-là à l'armée régulière, puisque dans la Constitution, un des débats, c'est qu'il y a une armée qui est composée de l'armée régulière et des RSF.
Si je vous comprends bien, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'armée, les forces armées au Soudan, les militaires ne vont pas changer. Enfin, il va pas y avoir de changement à ce niveau-là dans ce nouveau Soudan qui est en train d'émerger.
Le changement principal, c'est que là, on a des forces qui étaient des forces de mercenaires, une milice paramilitaire, dont la situation est un petit peu ambiguë, où apparemment on essaye de les intégrer à l'armée régulière. Techniquement, ils le sont en réalité, mais en même temps, on sait très bien qu'ils restent très autonomes, qu'ils ont leur propre source de financement, et que c'est voilà une capacité de nuisance, même s'ils sont moins nombreux, extrêmement importante. Et toute la question, c'est comment on empêche que ces gens-là ne fassent déraper l'ensemble du processus. Et ce qui pose aussi la question de quel degré de pouvoir a le chef Imeti sur ses propres troupes. On va être face
déraper, à ça voudrait dire sombrer dans des techniques de répression telles qu'on a pu les voir ces derniers mois,
oui,
c'est-à-dire vraiment le statu quo en termes sécuritaires, militaires et donc politiques.
Dans une violence, voilà, comme on a pu l'avoir dans le passé, extrêmement, extrêmement forte et extrêmement létale, en fait.
Tout à l'heure, Gérard Prunier, vous parliez de termes de l'accord extrêmement élastiques et flous. Quel est le point, quelle est la nouveauté de cet accord en termes politiques? Qu'est-ce qui va vraiment changer d'un point de vue des institutions, d'un point de vue de la pratique politique maintenant au Soudan?
Il y a le point de départ, qui est le Conseil de souveraineté, c'est-à-dire un exécutif qui n'est pas le résultat du coup d'État de 1989, ce qui a été le cas jusqu'à présent. Qu'est-ce que ce Conseil de souveraineté va représenter comme pouvoir réel? Ça, on ne le sait pas, parce que le seul moyen, je suis d'accord avec vous, le seul moyen, il faudrait avoir une boule de cristal pour savoir comment ça va vraiment fonctionner. En théorie, oui, c'est du 50-50, avec un premier ministre, on peut dire, parce qu'il n'y a pas encore de gouvernement, hein, le Conseil de souveraineté est une espèce de super exécutif théorique, ni élu, et on ne sait pas choisi trop
provisoire
comment.
Provisoire de transition.
Voilà. Et alors, d'ailleurs, avec une règle qui rend le fait d'y appartenir assez terrible, ces gens-là n'auront pas le droit de se présenter aux élections quand il y en aura lieu. Donc les gens sont avec une situation de au bout de 30 secondes cette cabine téléphonique explose. C'est une situation qu'on ne peut pas connaître puisqu'elle n'a jamais existé. Il n'y a pas de gouvernement, il va être proclamé, on va avoir les premiers noms mardi. Bon, on connaît que le nom du premier ministre, qui est d'ailleurs un homme fort respectable et dont les sympathies vont pas du tout dans le sens Monsieur Hamdok, ses sympathies vont certainement pas du tout dans le sens du régime qui vient de trébucher. Je ne dis pas de tomber, de trébucher.
Pourquoi vous ne dites pas tomber?
Il n'est pas tombé parce qu'il est encore présent dans toutes les administrations. Vous prenez n'importe quel ministère et à partir du Permanent Secretary jusqu'en bas, c'est entièrement peuplé de gens qui ont été nommés par la dictature. Alors évidemment, le Conseil de souveraineté va être devant le travail d'Hercule d'essayer de s'attacher à extraire morceau par morceau tous les représentants de la dictature qui sont présents dans tous les ministères, du haut en bas. Bien sûr, quand il y aura un gouvernement, il y aura de nouveaux ministres. Les ministres vont souvent être des sympathisants du mouvement démocratique. Mais franchement, essayons d'imaginer si au lieu, en 1946-47, au lieu d'avoir dénazifié l'Allemagne, on avait demandé au chancelier Konrad Adenauer, à qui on aurait donné le pouvoir, à vous, le travail de faire, de vider les administrations des différents ministères du Reich. Et heureusement, il n'a pas eu à s'appuyer à un tel boulot. Or là, ça va être le travail des ministres de
l'ancien régime,
du gouvernement qui va être proclamé mardi prochain. Mm-hmm. Et franchement, il va leur falloir du courage et surtout des moyens.
Mais justement, le Soudan, quand on prend donc la situation de ce pays en termes de corruption, l'ONG Transparency International l'a classé 172e sur un classement de 180 pays. L'ancien chef de l'État, Omar el-Béchir, a passé près de 30 ans au pouvoir. Dans quel état ce conseil de transition trouve ce pays et quelles sont les priorités de cet exécutif provisoire à
La priorité déclarée, c'est la paix, pour le moment. Alors, vous avez deux choses. Vous avez, dans les revendications initiales, ça a toujours été, on veut un gouvernement de technocrates, de gens compétents, ça pour changer, qui puissent remettre le pays sur les rails du développement. Mais là, ce qui est annoncé, c'est que les 6 premiers mois, notamment, sont consacrés à la mise en œuvre de la paix, donc réconciliation avec tous les différents mouvements rebelles, etc., ce qui pose quelques problèmes actuellement. Mais le but de la transition, in fine, c'est non seulement d'arriver à cet état, voilà, d'organiser des élections et tout ça, mais également d'avoir un développement au Soudan. En fait, c'est certain que depuis l'indépendance, la sécession du Sud-Soudan en 2011, qui est partie avec tous les puits de pétrole, grosso modo, et qui en plus depuis 2013 est dans sa propre situation de guerre civile, le Soudan a perdu ce qui était son principal ressort économique et ce qui permettait, même si évidemment l'argent a été notamment accaparé au sein de l'appareil de sécurité, beaucoup réinvesti là-dedans, puis dans quelques projets d'infrastructures un peu pharaoniques qui n'ont pas nécessairement très bien fonctionné, ça permettait quand même ces revenus, une certaine redistribution, ça a permis, à Khartoum, vous avez eu une explosion urbaine, de construction de bâtiments, vous avez une certaine classe moyenne qui a pu bénéficier de cette période-là. Et en fait, à partir de 2011, on entre dans une période où ça devient de plus en plus difficile et où là, commence à se faire sentir sur cette nouvelle classe moyenne-là les effets de la crise économique, ce qui explique pourquoi on arrive à un mouvement transversal à un moment donné, à fin 2018. Alors le Soudan a des ressources, l'agriculture, le problème c'est qu'on a développé l'agriculture à l'exportation essentiellement, puisque c'est ça qui était bénéfique, donc on faisait tout un tas de structures pour que ça revienne au gouvernement, puis évidemment pas aux d'autres gens cette agriculture-là. On a vendu des terres aux pays du Golfe, puisque eux sont dans leur démarche de sécurité alimentaire, etc. De même, on a essayé de transformer l'or en nouvelle rente. Alors moi, je ne sais pas exactement si c'est une idée viable. Je ne sais pas combien d'or le Soudan a. Mais évidemment, la plupart part sur les marchés noirs.
Mais la priorité là du gouvernement, c'est donc le maintien de la paix et l'attente première de la population civile, de la société civile, c'est quoi en fait ? Elle se situe où ? C'est au niveau de la paix aussi ou il y a des attentes
C'est la société civile,
d'ordre social.
C'est tout un tas d'organisations, de gens, d'entreprises qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts économiques, politiques et les mêmes agendas.
Est-ce qu'il y a un dénominateur commun cependant ?
C'est clairement, comme je vous disais, c'est effectivement la paix et le développement. La question du développement, c'est quoi le développement ?
Est-ce que la paix est envisageable avec ce numéro 1 et ce numéro 2 du Conseil de transition, Gérard Prunier, à la tête de ce Conseil national de transition ?
La paix est déjà un état de fait. Alors ça ne veut pas dire l'ordre. Il y a une criminalité galopante dans les régions qui ont été les régions de conflit. Mais est-ce que c'est le résultat d'une action, disons, on pourrait dire classique, d'une guérilla contre un gouvernement ? Non. La guérilla est à bout de souffle. Aussi bien au sud Kordofan qu'au Nil Bleu. Et les Les gens qui se battent encore au Darfour, souvent se battent avec un pied en Libye. Et d'ailleurs, c'est toute l'ambiguïté de la position de Monsieur Emeti, qui n'est même pas vraiment soudanais, puisqu'il est d'une famille tchadienne, et que son cousin est le chef d'état-major de l'armée tchadienne. D'ailleurs, il y a une sorte de prise de conseil, j'emploie le mot avec des guillemets, de la part avec N'Djamena. Et on est dans une situation où des gens vous disent il y a une occupation étrangère chez nous. Parce que les hommes des métiers sont largement des non-soudanais.
Donc une division
qui... Ça vient même
d'Afrique
centrale, ça vient du Niger, il y a même des déserteurs de Boko Haram, il y a tout le Sahel qui a glissé jusqu'au Soudan.
Donc une division qui rend un peu flou les premiers contours des négociations de ce conseil de transition, si je comprends bien.
Et d'ailleurs, les mouvements armés n'ont pas accepté d'y rentrer.
Eh bien, je vous remercie tous les deux, Anne-Laure Mahé et Gérard Prunier, d'avoir été avec nous pour parler de la situation politique bien compliquée au Soudan en ce jour pourtant d'accord historique entre l'armée et la société civile. On peut retrouver vos travaux et des articles pour compléter notre discussion sur notre site franceculture.fr à la page du magazine du week-end, ainsi que cette émission que vous pouvez réécouter et podcaster. Merci à Catherine Donnet, Chloé Rossignol, Benjamin Teinturier, Isée Sorel qui prépare cette émission avec moi, à Émilie Valla qui la réalise et à Jean Frédérics à la technique. Nous on se retrouve samedi prochain, mais pour l'heure c'est Nicolas Martin dans quelques secondes, les idées claires.